Quand on regarde une carte géographique classique, tout a l'air super simple.
Très net.
Ouais, les belles lignes continues, chaque pays bien colorié.
C'est ça, c'est très rassurant, la géométrie politique.
Mais bon, si on regarde vraiment le paysage géopolitique africain en ce mois de septembre 2026, on s'aperçoit vite que ces belles lignes tracées sur le papier, bah, elles sont carrément en train de se dissoudre.
Absolument, la carte ne correspond plus au territoire.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une plongée, une vraie exploration en profondeur, dans un panorama d'infos hyper dense, une sorte de radiographie du continent à l'instant T.
C'est exactement l'objectif.
Et ce qui me fascine personnellement, c'est de voir comment un courant marin dans le Pacifique, une bataille pour des antennes 5G, ou même un testament royal caché en Ouganda racontent au final exactement la même histoire.
Parce que les événements ne se produisent plus en vase clos aujourd'hui. Un choc météo déclenche une crise agricole qui elle-même vient vider les caisses de l'État. Et paf, ça ouvre la porte à des réalignements diplomatiques.
Ouais, un vrai jeu de domino.
C'est ça. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est d'aller regarder sous le capot de ces gros titres pour comprendre cette ingénierie complexe qui les relie tous.
Bon, décortiquons tout ça. Le premier signal d'alarme qui retentit en ce moment, ça se passe en République démocratique du Congo. Et ça concerne l'épidémie d'Ebola.
Un sujet très lourd, oui.
Très lourd, ouais. Surtout qu'on parle pas juste d'un virus qui stagne dans un coin, c'est un virus qui migre. Les chiffres qu'on a là, c'est 6843 cas confirmés pour 3310 décès.
C'est énorme.
C'est massif. Mais attends, ce qui est vraiment alarmant, c'est que l'épicentre se déplace. Il y a une baisse en Ituri, d'accord, mais c'est une explosion absolue au Nord Kivu et dans le Haut-Uele. Rien qu'au Nord Kivu, écoute ça, ils sont passés de 165 à 381 nouveaux cas en l'espace de seulement 3 semaines. Comment on explique une accélération aussi brutale?
La réponse se trouve dans le croisement entre la biologie et la sécurité, en fait. Pour contenir Ebola, il faut un traçage des contacts extrêmement rigoureux.
Logique, faut savoir qui a vu qui.
Voilà. Or, le Nord Kivu, c'est une région où l'autorité de l'État est très contestée par plein de groupes armés. Donc, quand des dizaines de milliers de personnes fuient les combats,
Ils se retrouvent dans des camps d'urgence.
c'est ça, des camps de fortune ou des zones urbaines surpeuplées, le suivi épidémiologique devient juste physiquement impossible. C'est d'ailleurs pour ça que l'Organisation mondiale de la santé projette que ça pourrait dépasser la crise de 2014-2016 d'Afrique de l'Ouest.
Waouh, vraiment, hein? Attention, c'est une projection, c'est pas un fait accompli, hein. Mais le virus a trouvé la faille parfaite, un vide sécuritaire total.
D'accord. Et comme si ça suffisait pas, il y a une autre menace qui s'ajoute, et celle-ci, elle est climatique.
El Niño.
Ouais, El Niño. Les modèles annoncent plus de 90% de probabilité d'un phénomène super puissant pour cet automne et cet hiver. Et même 75% de chances que son intensité d'octobre à décembre batte tout ce qu'on a vu depuis 1950. C'est un monstre thermique qui se forme.
Un monstre, le mot est faible. Mais explique-nous un peu la mécanique. Comment une anomalie de l'eau dans le Pacifique vient dicter la sécurité alimentaire de l'Est de l'Afrique?
En fait, c'est un effet domino sur les précipitations mondiales. Quand le Pacifique équatorial se réchauffe comme ça modifie ce qu'on appelle la circulation atmosphérique de Walker.
Ok.
Pour l'Afrique de l'Est, ça veut dire grosso modo des pluies diluviennes complètement hors saison et juste après des sécheresses interminables. Le gros problème, c'est la symétrie de l'information.
C'est-à-dire...
On a des modèles climatiques mondiaux géniaux, mais les agriculteurs, disons au Kenya, ils ont besoin de prévisions hyper locales. Ils doivent savoir quel jour précis planter leurs graines. Sans ces données ultra précises, c'est toute la chaîne agricole qui peut s'effondrer d'un coup.
Ce qui explique pourquoi c'est un peu la panique à Nairobi. Parce que le Kenya est carrément en train de négocier 400 millions de dollars d'urgence avec la Banque mondiale. Et ça doit être débloqué d'ici 6 semaines.
C'est très court.
Hyper court. Mais ils doivent gérer Ebola aux frontières, l'agriculture face à El Niño, et en plus absorber les prix de l'énergie. Pour moi, c'est comme essayer de réparer la toiture de sa maison en pleine tempête, tout en éteignant un incendie dans la cuisine.
C'est une très bonne analogie. C'est un triage économique de guerre, littéralement. Le gouvernement doit choisir quelle hémorragie stopper en premier.
Mais ces 400 millions, ils arrivent comment?
Alors c'est là qu'est le piège. Cet argent, c'est pas un chèque en blanc. Ça demande des structures de décaissement d'urgence. On contourne les ministères pour aller plus vite. Et face à l'urgence, la grande question des observateurs, c'est comment garantir la transparence et l'efficacité de ces fonds? La précipitation, ça fragilise toujours les contrôles.
Ah oui, le risque de déperdition est énorme. Et ça nous amène d'ailleurs à une réalité super dure. Quand un État est tout le temps dans cette urgence macroéconomique, il n'a plus l'énergie ni l'argent pour maintenir les normes de base.
L'infrastructure elle-même devient le danger.
Exactement. Et on en a vu un exemple tragique à Bukavu, en RDC. Un incendie part d'une maison et ça engloutit deux écoles en bois, Furaya et Ujama, et environ 300 habitations autour. Le bilan provisoire de l'administration locale est effroyable.
Ouais, c'est terrible.
24 enfants tués, 19 filles, 5 garçons et 29 blessés. Il y a eu des scènes de panique, les sorties étaient beaucoup trop étroites, ces pauvres enfants ont été pris au piège par le bâtiment lui-même.
C'est l'effondrement silencieux de la conformité dont on parlait. À Bukavu, l'absence d'issue de secours conforme, ça pose la vraie question de la sécurité des écoles.
Mais comment c'est possible d'avoir des écoles en bois aussi dangereuses ?
Bah avec la pression foncière et la précarité, les constructions se font souvent sans urbanisme. Quand l'inspection des bâtiments est sous-financée, le moindre départ de feu devient une catastrophe de masse.
C'est déprimant. Mais alors, le contraste est totalement fou quand on regarde du côté des infrastructures qui, sur le papier, ont l'air de cartonner. Faut qu'on parle de l'Afrique du Sud et de Transnet.
Ah, le géant étatique des transports.
Oui, alors eux, ils viennent de sortir un bénéfice net de 4,6 milliards de rands. L'année dernière, ils étaient à 1,9 milliard de pertes. C'est magique, hein ? Sauf que, attends, aide-moi là. Leur volume ferroviaire, il stagne à 167,9 millions de tonnes. Or, tout le monde sait que leur seuil de rentabilité, il est au-dessus de ça. Comment tu annonces un profit pareil alors que tes trains tournent à perte ?
C'est un pur mirage comptable. C'est l'illusion parfaite. Ce bénéfice de 4,6 milliards, il ne vient pas d'une amélioration de leurs trains. Pas du tout. Il vient d'un gain exceptionnel de 12,5 milliards de rands.
Et il sort d'où cet argent ?
De la vente, enfin d'une concession de 25 ans d'une partie du terminal portuaire de Durban à un opérateur philippin, ici TSI.
D'accord, donc en gros, c'est comme si je vendais les meubles de mon salon pour payer mon loyer et qu'à la fin du mois, je me disais « génial, je me suis enrichi ».
C'est exactement ça.
Surtout que leur dette globale, elle a grimpé à 150,7 milliards de rands. C'est dingue.
Oui, l'illusion masque l'absence de redressement durable. L'Afrique du Sud perd le contrôle de son port le plus vital pour un quart de siècle, juste pour masquer un trou à court terme.
Et justement, cette perte de contrôle sur les ports, ça nous montre à quel point le continent dépend de ces grands goulets d'étranglement mondiaux. On le voit très bien avec le commerce maritime.
Tout à fait. Le détroit de Bab el-Mandeb, par exemple.
Exact. Au Yémen, on a les forces Houthis qui ont atteint Dubab et l'île de Périm. C'est la porte d'entrée de la mer Rouge vers le golfe d'Aden. Et, petite précision pour ceux qui écoutent, on ne prend aucun parti pris ici, on se contente d'analyser les faits rapportés par nos sources de manière totalement impartiale.
Exactement. On n'endosse aucune action, mais factuellement, même si ces groupes assurent qu'ils ciblent les navires de façon très sélective, les armateurs ont peur.
C'est clair. Et la peur, ça fait exploser les coûts de transport, non ?
Ouais, les primes d'assurance s'envolent, les bateaux font le grand tour. La conséquence directe pour l'Afrique, c'est l'inflation sur l'alimentaire et sur les carburants. C'est une question de souveraineté économique, en fait.
Alors, on a cette bataille hyper visible pour le détroit maritime. Mais il y a une autre bataille, beaucoup plus discrète, pour des détroits invisibles, les réseaux 5G.
La fameuse guerre froide numérique.
C'est ça. On apprend que les États-Unis accordent un prêt d'environ 100 millions de dollars à l'opérateur Africell. Ils ont quand même 15 millions de clients sur le continent. Le but explicite de ce prêt, et là encore, on reste complètement neutre sur la rivalité géopolitique, c'est de limiter l'influence du chinois Huawei, qui possède 52% du marché africain de la 5G.
Et c'est un prêt conditionné ?
Voilà, c'est pour acheter de la technologie américaine ou alliée. Mais concrètement, qu'est-ce que tout ça veut dire ? L'Afrique est condamnée à être le terrain de jeu des superpuissances ?
C'est le grand risque. L'enjeu ici, c'est la souveraineté numérique. Et la vraie souveraineté, comme le soulignent nos sources, c'est pas de choisir entre une dépendance américaine ou une dépendance chinoise.
C'est de créer ses propres réseaux.
Pas forcément tout créer depuis zéro, mais c'est maîtriser ses capacités, gérer ses propres tarifs, contrôler le routage de ses propres données. Si tu laisses un géant étranger installer tout ton cœur de réseau, c'est lui qui possède les clés du cryptage.
C'est flippant, en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on veut s'affranchir de ces réseaux traditionnels, ça touche aussi la finance.
Ah, tu penses aux monnaies des BRICS ?
Exactement. L'Inde a mis sur la table une proposition pour le sommet de la mi-septembre 2026. L'idée, c'est de connecter les monnaies numériques des banques centrales. Et l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie sont impliquées. L'objectif, c'est de faciliter les paiements transfrontaliers.
Ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a des obstacles politiques et techniques immenses.
J'imagine, ouais. Mais tu te rends compte du paradoxe. D'un côté, on a des États puissants, tu bosses d'arrache-pied pour rendre l'argent totalement fluide. Zéro friction, ça traverse les frontières en un clic. Et de l'autre?
De l'autre, on a les frontières physiques.
Ouais, Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc. Plus de 70 000 passages, juste en juillet. Et là aussi, on garde notre stricte neutralité. Madrid dit que c'est orchestré sur les réseaux sociaux, Rabat nie tout en bloc. Aucune preuve juridique ne tranche pour le moment. Mais la réalité humaine, elle, elle est indiscutable.
C'est le grand drame.
Les ONG parlent de plus de 100 morts, des milliers de migrants bloqués, dont des mineurs non accompagnés. Le contraste est d'une violence inouïe. L'argent devient invisible et passe partout, mais les êtres humains meurent contre des murs.
C'est un paradoxe que les sources nous invitent vraiment à regarder en face. Derrière la géopolitique, il ne faut surtout pas réduire ces personnes à de simples statistiques.
C'est impossible, oui.
L'information nous rappelle que ce sont des questions de droits humains, de conditions d'hébergement, d'accès à des avocats. Le flux de capitaux ne peut pas masquer la souffrance humaine aux postes frontières.
C'est très juste. Et ces conflits géopolitiques modernes, qu'ils soient monétaires ou frontaliers, ils semblent très actuels. Mais parfois, c'est l'histoire très ancienne qui vient tout dicter.
Comme ce qui se passe en Ouganda avec le royaume de Touro.
Quelle histoire incroyable, hein.
Le roi Oyo Nimba est mort aux États-Unis à seulement 34 ans.
Et il était sur le trône depuis 1995, il avait 3 ans à l'époque. Ouais. Donc, grosse crise de succession, le comité désigne son cousin, un journaliste, Édouard Rukidi-Kijanangoma. L'affaire a l'air pliée, sauf que la mère et la sœur du roi décédé débarquent et contestent tout. Elles affirment avoir un testament qui désigne un fils biologique tenu secret.
Un scénario hollywoodien, presque.
C'est dingue. Et le successeur doit être désigné avant l'inhumation, donc c'est la course contre la montre. Mais ce qui m'interpelle, c'est que l'Ouganda est une république. La monarchie n'a pas de pouvoir exécutif. Pourquoi c'est une telle crise d'État?
C'est là qu'on comprend la vraie force des institutions. C'est pas juste une dispute de famille, tu vois. Ça concerne la gestion d'immenses biens, la préservation d'un héritage.
L'influence culturelle est forte à ce point.
Massif. C'est le fameux pouvoir doux traditionnel. Les royaumes n'ont peut-être pas l'armée ou la police, mais ils ont une autorité sociale incroyable, au point que le gouvernement républicain de Kampala est obligé de s'impliquer, de jouer les médiateurs en coulisses pour trouver un accord. Parce que si le royaume est instable, c'est toute la région qui vacille.
C'est fascinant de voir que les traditions obligent la République à s'adapter.
Absolument.
Bon, si on récapitule un peu ce voyage mental qu'on vient de faire avec ceux qui nous écoutent,
C'est vertigineux.
on est parti de la réalité terrifiante d'Ebola que se déplace à cause de l'insécurité jusqu'aux manœuvres pour le contrôle de la 5G.
En passant par les illusions comptables de l'Afrique du Sud et les tragédies bien réelles des frontières et des infrastructures.
Et la bataille d'héritage royal en Ouganda, c'est la preuve parfaite qu'une information n'a de sens que si on relie les points.
Et ça soulève d'ailleurs une réflexion qui, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde pour l'avenir. On a bien vu comment un petit détroit au Yémen, des réseaux de télécommunications sous perfusion de prêts étrangers et ces projets de monnaie numérique redessinent totalement la carte du pouvoir en Afrique.
Tout est interconnecté.
Exactement. Et la question fondamentale, c'est les véritables frontières de demain, est-ce qu'elles seront encore délimitées par des barrières physiques, des océans et de la géographie, ou bien est-ce qu'elles seront tracées de manière invisible par ceux qui contrôlent les signaux 5G et les algorithmes de notre argent?
C'est la grande question, ouais. Et c'est ce qui rend cette exploration intellectuelle si passionnante. Alors, gardez tous bien votre esprit critique éveillé. Regardez toujours au-delà des lignes tracées sur la carte, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.
À très bientôt!